La doctrine de l'Antéchrist, étude numéro 243b. La doctrine de l'Antéchrist a été modifiée dans le texte de la Bible, de sorte que les fausses doctrines, qui ont été insérées dans le christianisme, en provenance des cultes du soleil et des mystères, ainsi que dans l'islam à partir des mêmes cultes et doctrines païennes, ne pouvaient pas être détectées. Alors, quelle est la vraie doctrine et comment cela a affecté le christianisme? À partir du document Les dépositions des croyances de la foi chrétienne A1, que vous pouvez consulter en ligne et le télécharger gratuitement, nous voyons que le texte de la Bible a été changé très tôt pour dissimuler la nature de Dieu, ainsi que la position du Christ dans l'incarnation et sa relation par rapport à Dieu. La doctrine de l'Antéchrist. La doctrine de l'Antéchrist est indiquée dans 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. La version King James de la Bible, KJV, qui provient du texte Receptus, déclare, citation, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. Et c'est cet esprit de l'Antichrist, duquel vous avez entendu dire qu'il doit venir, et même il est déjà dans le monde. » Fin de citation. Or, ce texte n'est pas le texte original correct. Nous savons à partir de ce texte que 1. C'est un test pour savoir qui est de Dieu et qui est de l'Antéchrist. 2. Cela a à voir avec la confession que Christ est venu en chair. 3. À partir du texte original et sa modification, nous allons déduire exactement ce que la doctrine de l'Antéchrist a cherché à atteindre et la façon dont la distinction a été dissimulée dans le christianisme dès l'époque de Jean, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, cherchant à changer les doctrines sur la nature de Dieu. L'ancien texte correct pour 1 Jean 4, versets 1 à 2 est reconstruit à partir d'Irénée, chapitre 16, section 8. Voir l'ouvrage Les Pères d'Avant-Nicée, volume 1, note en bas de la page 443. Citation. Connaissez par ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui sépare Jésus-Christ n'est pas de Dieu, mais est de l'Antéchrist. Cette question de la séparation de Jésus-Christ est le problème en question, et provient des cultes des mystères et du soleil, et des enseignements gnostiques qui ont cherché à atteindre deux distinctions. Le culte du dieu Attis à Rome, qui provenait des cultes du soleil et du culte de Baal dans le Moyen-Orient, a cherché à rendre distinct l'aspect du dieu dans le ciel et le dieu qui provient de ce dieu en tant que division de lui-même, et qui descendit sur la terre et descendit dans l'Hadès le vendredi, et a été ressuscité par l'intervention de la déesse le dimanche. La déesse a été appelée Astarté, en tant que l'épouse de Baal, telle que mentionnée dans la Bible, ou à Ishtar ou Easter dans les pays anglo-saxons. Et dans le système Attis, c'était Cybèle. Cette doctrine n'est pas chrétienne. Elle provient des cultes du soleil et des mystères, et utilise le calendrier solaire et les solstices comme son véhicule ou système d'adoration. Socrate, l'historien, dit, voir son ouvrage, à section 732, page 381, que le passage avait été corrompu par ceux qui voulaient séparer l'humanité de Jésus-Christ de sa divinité. Socrates Scholasticus écrit concernant Nestorius, section 7, 32. Citation. Maintenant, il n'était évidemment pas familier avec le fait que dans la première épître catholique de Jean, il a été écrit dans les copies antiques que tout esprit qui sépare Jésus n'est pas de Dieu. La mutilation de ce passage est imputable à ceux qui désiraient séparer la nature divine de l'économie humaine. Ou pour utiliser la langue même des premiers interprètes, certaines personnes ont corrompu cette épître, visant à séparer l'humanité du Christ de sa déité. Mais l'humanité est unie à la divinité dans le Sauveur, de manière à constituer non pas deux personnes, mais une seule. De là, c'est ainsi que les anciens, enhardis par ce témoignage, ont sans scrupule stylisé Marie, Théotokos, car ainsi Eusèbe Pamphile, dans son troisième livre de la vie de Constantin, écrit en ces termes. Et en fait, Dieu avec nous s'est soumis à naître, pour nous, et le lieu de sa naissance est par les Hébreux appelé Bethléem. C'est pourquoi l'impératrice pieuse Hélène ornait le lieu de l'accouchement de la Vierge, portant Dieu, des plus beaux monuments, en décorant cet endroit sacré avec les ornements les plus riches. Origène aussi, dans le premier volume de ses commentaires sur l'épître de l'apôtre aux Romains, donne une ample exposition du sens dans lequel le terme « Théotokos » est utilisé. Il est donc évident que Nestorius était très peu familier avec les traités des anciens, et pour cette raison, comme je l'ai observé, s'est opposé aux mots seulement. Pour cela, il n'affirme pas Christ comme un simple homme, comme Photinus l'a fait ou Paul de Samosate. Ses propres homélies publiées le démontrent pleinement. Dans ses discours, il détruit nulle part la propre personnalité de la parole de Dieu, mais au contraire, maintient toujours qu'il a une personnalité et une existence essentielle et distincte. Et il ne nie jamais sa substance comme Photinus et le Samosatan l'ont fait. Et comme les manichéens et les adeptes de Montanus ont également osé faire. Tel est en fait ce que j'en sais de Nestorius, à la fois par le fait d'avoir lu moi-même ses propres œuvres et par l'assurance de ses admirateurs. Mais cette affirmation vide à son encontre n'a produit aucune légère effervescence dans le monde religieux. Fin de citation de Socrate Scholasticus dans son ouvrage à section 732. Cette dispute s'associe à la notion que la Vierge Mariam pourrait être Théotokos, ou le porteur de Dieu, et la notion que Christ était un Elohim en tant qu'un fils de Dieu avait été détruite par la dispute qui a finalement abouti. Tandis que la structure de la Bible a établi Christ comme un Elohim et fils de Dieu avec les autres fils de Dieu, voir Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, Job 38, verset 4 à 7. Depuis la fin du deuxième siècle, ils ont commencé à élever Christ à une position d'un être élevé au-dessus des Elohim. Et les Elohim ont été réduits à l'état de angelos en grec, ou ange, plutôt que fils de Dieu comme Elohim, et ont été réduits à un type ou une classe inférieure distincte du Christ. Nous pouvons déduire la dispute à partir de l'écrit de Socrate. Cependant, lui-même ne comprend pas la véritable profondeur des erreurs développées à partir des binitaires d'Attis, qui sont entrés dans le christianisme à partir du milieu du IIe siècle à Rome. La dispute des Nestoriens concernant la position de Mariam, entre parenthèses improprement appelée Marie, n'a pas été bien comprise par les deux parties de l'argument, puisqu'elles avaient été corrompues par plus de deux siècles d'hérésie binitaire. Cependant, c'était la mariolatrie qui semble avoir provoqué la dispute à travers Nestorius. Maintenant, nous pouvons reconstituer le texte et le sens des textes en entier à partir d'Irénaeus, ou Irénée en français, dans l'ouvrage Les Pères d'Avant-Nicée, volume 1, livre 3, chapitre 16, section 8 à 9. Examinons ces distinctions davantage pour voir juste ce que cette hérésie distinctive est, puisqu'elle détermine si vous êtes un chrétien ou pas, et de là si vous êtes dans la première résurrection. Irénée rend cela parfaitement clair au chapitre 16, section 8, comme suite. Il mentionne également que les doctrines païennes des Éons sont concernées. C'est pourquoi nous regardons également au modèle néoplatonicien que nous avons développé ailleurs. Ce sont les doctrines bibliques au sujet des fils de Dieu qui sont en cause, telles que nous voyons développées dans les psaumes à partir de Deutéronome 32, verset 8 et suivant, et Job chapitre 1, verset 6, Job chapitre 2, verset 1, et Job 38, verset 4 à 7. C'est ce fait de la préexistence de Jésus-Christ qui est essentiel à la doctrine chrétienne, telle que nous le voyons ci-après. Voir aussi l'étude de la préexistence de Jésus-Christ, l'étude numéro 243 en ligne sur le site ccg.org/french. En outre, les hérésies qui sont entrées dans l'Église au début du 1er siècle étaient plus gnostiques. Le binitarisme n'est pas entré dans le système chrétien de façon sérieuse jusqu'aux conversions d'Attis à Rome au IIe siècle. Le processus a été expliqué dans l'étude « La déformation par les binitaires et les trinitaires de la première théologie de la divinité », étude numéro 127b, et sera plus amplement développé dans l'ouvrage « La loi de Dieu », volume 2, livre 1. Les hérésies à Colosse et en Galatie sont expliquées dans le texte « L'hérésie dans l'Église apostolique », étude numéro 89. Et davantage dans l'ouvrage « La loi de Dieu », volume 2. La structure des Éons a été superposée à la structure centrale des Elohim, comme dans la structure de Tanth, dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, et les 70, tels que structurés à partir du Sinaï, et par Christ dans l'évangile de Luc chapitre 10, verset 1, verset 17, qui a remplacé le Sanhédrin et a attribué son autorité au conseil des 70 dans l'Église de Dieu, ou en latin, LXX, qui veut dire 70. Irénée réfute la réduction de Christ comme cela a été fait par les intrus gnostiques dans l'Église, qui ont réduit Christ à un niveau inférieur de la structure Aeon dans le Démiurge. Nous verrons cette réaction alors utilisée pour insérer le système binitaire après l'année 175 de l'ère courante, à Rome, avec l'élévation du Christ au-dessus des Elohim, plutôt que comme l'un d'eux. Puis ensuite, ils ont développé le système d'Athanase de la fin du 3e et début du 4e siècle, qui est devenu finalement le système trinitaire à partir de l'année 381 de l'ère courante. Voir son explication de ce que les gnostiques ont fait. Citation. Tous donc sont à l'extérieur de la dispensation chrétienne, qui, sous prétexte de la connaissance, comprennent que Jésus était l'un et Christ l'autre, et le seul Fils engendré un autre, de qui est à nouveau la parole, et que le Sauveur est un autre, dont ses disciples d'erreur allèguent être une production de ceux qui ont été faits aeon, dans un état de dégénérescence. De tels hommes sont des brebis d'apparence extérieure, car ils paraissent être comme nous, par ce qu'ils disent en public, en répétant les mêmes mots que nous, mais au-dedans, ce sont des loups. Leur doctrine est homicide, évoquant, comme elle le fait, un certain nombre de dieux, et simulant de nombreux pères, mais abaissant et divisant le Fils de Dieu à bien des égards. Ce sont ceux contre lesquels le Seigneur nous a mis en garde à l'avance. Et son disciple, dans son épître déjà mentionné, nous ordonne de les éviter. Quand il dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu dans la chair. C'est un séducteur et un antéchrist. Prenez garde à eux, afin de ne pas perdre ce que vous avez forgé. » Et encore, dit-il dans l'épître, « Beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Connaissez par ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui sépare Jésus-Christ n'est pas de Dieu, mais est de l'Antichrist. » Ces mots sont en accord avec ce qui a été dit dans l'Évangile, que la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. C'est pourquoi il s'écrit de nouveau dans son épître, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » La connaissance du Christ Jésus pour être un seul est le même, à qui les portes des cieux étaient ouvertes, à cause du fait qu'il a pris sur lui la chair, qui devra aussi venir dans la même chair dans laquelle il a souffert, en révélant la gloire du Père. Souscrivons à ces déclarations, Paul, parlant aux Romains, déclare, « Beaucoup plus, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et de la justice pour la vie éternelle, régneront par un Christ Jésus. » Il s'ensuit de ceci, qu'il ne savait rien de ce Christ qui est parti de Jésus, ni ne savait du Sauveur ci-dessus, qu'il tienne pour impassible. Car si en vérité l'un a souffert et l'autre est resté incapable de souffrir, et l'un est né mais l'autre est descendu sur celui qui est né et l'a laissé de nouveau, ce n'est pas un mais deux qui sont dévoilés. Mais que l'apôtre le connaissait comme un à la fois qui est né et qui a souffert, à savoir Christ Jésus, il dit encore dans la même épître, « Ne savez-vous pas que beaucoup d'entre vous qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés en sa mort, que comme Christ est ressuscité des morts, ainsi nous devons aussi marcher en nouveauté de vie. » Mais encore une fois, montrant que le Christ a souffert et était lui-même le Fils de Dieu, qui est mort pour nous, et nous a rachetés par son sang au temps fixé à l'avance, il dit, « Car comment se fait-il que Christ, lorsque nous étions encore sans force, au temps voulu est mort pour des impies ? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À combien plus forte raison donc, maintenant, justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère à travers lui ? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ? » Il déclare, dans la manière la plus claire, que le même être qui a été saisi et qui a subi la souffrance et a versé son sang pour nous était à la fois Christ et le Fils de Dieu, qui a également ressuscité à nouveau et fut enlevé au ciel, comme lui-même Paul le dit. Mais en même temps, c'est Christ qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est même à la droite de Dieu. Et encore, sachant que Christ étant ressuscité des morts ne meurt plus, comme lui-même, voyant à l'avance par l'esprit les subdivisions des enseignants mauvais à l'égard de la personne du Seigneur, et désireux de supprimer d'eux toute occasion de chicanerie, il dit ce qui a déjà été dit, et aussi déclare, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ?» Celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ce qu'il ne dit pas à ceux-là seuls qui veulent entendre. Ne faites pas d'erreur. Il dit à tous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est un seul et le même, qui par la souffrance nous a réconciliés à Dieu et est ressuscité des morts, qui est à la droite du Père et parfait en toutes choses, qui, quand il a été frappé, sans répondre en retour, qui, quand il a subi de menaces, et quand il a subi la tyrannie, il a prié son Père qu'il pardonne à ceux qui l'avaient crucifié. Car il a lui-même vraiment apporté le salut, car il est lui-même la parole de Dieu, lui-même le seul engendré du Père, Christ Jésus notre Seigneur. Voici les notes relatives aux articles 8 et 9 que nous venons de lire. Donc, le numéro 296, citation de 2 Jean, verset 7, verset 8. Irénée semble avoir lu « autus » au lieu de « eotus » comme dans le texte reçu. La note 297 vient de 1 Jean 4, verset 1 et verset 2. Il s'agit d'une différence importante dans le texte reçu du passage « Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair ». La traduction de la Vulgate et Origène sont en accord avec Irénée et Tertullien semble reconnaître les deux lectures. Voir son ouvrage contre Marcion au verset 16. Socrate nous dit, dans son ouvrage, que le passage avait été corrompu par ceux qui voulaient séparer l'humanité de Christ de sa divinité et que les anciennes copies lisent « Pan pneuma o luei ton yesun apo tu teu uk esti ». Ce qui concorde exactement avec la citation d'Origène et pratiquement à celle d'Irénée qui est devant nous. Polycarpe semble faire allusion au passage que nous avons maintenant et il en va de même d'Ignace. Voir la question discutée par Burton dans ses témoignages d'avant Nicée. Un autre ouvrage de Burton a un nom similaire. Voir aussi British Critic, volume 2, 1827, page 265. La note 298 est tirée de 1 Jean 5, verset 1. La note 299 de Romains, chapitre 5, verset 17. La note 300 est tirée de Romains, chapitre 6, verset 3 à 4. La note 301 est tirée de Romains, chapitre 5. Versets 6 à 10, Irénée semble avoir lu, tout comme la Vulgate, « Eitigar » pour « Eitigar » dans le texte. La note 302 est tirée de Romains chapitre 8, verset 34. La note 303 est tirée de Romains chapitre 6, verset 9. La note 304 est tirée de Romains chapitre 8, verset 11. Et la note 305 est tirée de 1 Pierre 2, verset 23. Nous l'avons de l'autorité d'Irénée. De la Vulgate et pareillement des érudits postérieurs que la version d'Irénée est l'original. Et ce n'était pas avant Tertullien que nous voyons le texte utilisé dans le Receptus accepté. Par conséquent, le texte ici est le bon, et nous devons voir quelle est la différence et pourquoi ce texte est venu à être utilisé. Les conclusions concernant les enseignements de la Bible au sujet de Christ. L'Antéchrist. C'est clair que Christ ne se considérait pas lui-même être Dieu. De suggérer qu'il faisait partie de l'entité à laquelle il faisait appel, dans une forme égale, dont une partie était impassible, est aberrant. Plus importante encore, cela peut être considéré comme la doctrine de l'Antéchrist déclarée dans 1 Jean 4, verset 1 à 2, comme cité auparavant. Aussi, dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 70, « Ils ont tous dit, es-tu donc le Fils de Dieu ? » Il a répondu, « Vous le dites, je le suis. » Il est hors de doute que l'Église primitive était subordinationniste et que ceux qui ont été formés à partir de Smyrne, sous les apôtres, et ceux tels que Polycarpe, étaient des unitaires bibliques et ils soutenaient que seul le Père est le seul vrai Dieu et que tous les autres, Christ inclus, ont reçu la vie éternelle du Père. Irénée a parlé non seulement contre les gnostiques et leur doctrine du paradis et de l'enfer, comme l'a fait Justin Martyr, voir l'ouvrage de Justin Martyr, Dialogue, section 80, mais aussi contre le binitarisme, nouvellement émergent des cultes du soleil, à Rome. Et il a identifié leur doctrine binitaire comme une hérésie, et leur système a continué à développer pleinement le trinitarisme du Dieu triune. C'est la doctrine de l'Antéchrist, et sa structure correcte est vue à partir d'Irénée, comme on l'a lu auparavant. Cette doctrine a pénétré les églises de Dieu à la fin du XXe siècle aux États-Unis. Les trinitaires ont contourné ce problème en disant que Christ a souffert dans son humanité, mais pas dans sa divinité, voire l'ouvrage de Lacunia. Cela a abouti à l'identification du trinitarisme avec la doctrine de l'Antéchrist, ce qu'il est, et ainsi la définition dans 1 Jean 4, verset 1 à 2 a été modifiée par rapport à l'original, tel que nous le voyons auparavant. Si nous croyons que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, nous serons sauvés. Si nous disons que Christ est Dieu et commençons alors à dire que Christ n'est pas mort et n'a pas été ressuscité par Dieu et que l'humanité de Christ est séparée de sa divinité en attribuant cet état à lui, alors nous avons la doctrine de l'Antéchrist. Comme nous l'avons observé, Socrate l'historien dit que 1 Jean 4, versets 2 à 3, a été modifié par ceux, entre parenthèses maintenant les trinitaires, dans les premiers siècles, qui voulaient séparer l'humanité et la mort du Christ de sa divinité. Entre parenthèses, voir les Pères d'Avant-Nicée, volume 1, note en bas de la page 443. Le texte correct devrait se lire, citation, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu, et tout esprit qui sépare Jésus-Christ n'est pas de Dieu, mais est de l'Antéchrist. » Toutefois, l'explication des textes que nous voyons auparavant est beaucoup plus compliquée. Jean dit que personne n'avait vu Dieu à aucun moment, voir 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 15. Comment alors le Fils peut-il être le Dieu qu'il a envoyé, et lequel Dieu n'a été vu par aucun homme à aucun moment? Dieu a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Son sacrifice est convenable parce que Dieu l'a envoyé, non pas parce que Christ était Dieu. L'argument philosophique grec sur l'irrecevabilité d'un sacrifice par procuration est bibliquement et intellectuellement absurde. Quiconque confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Ce concept est au cœur du sacrifice. Le sacrifice du Christ est convenable pour nous parce que Dieu a dit que c'était convenable. Christ est venu pour être sacrifié parce qu'il était obéissant jusqu'à la mort, voir Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Christ s'est qualifié par son obéissance pour devenir souverain sacrificateur de tous et pour devenir un fils de Dieu avec puissance à travers l'Esprit Saint par sa résurrection d'entre les morts, voir Romains 1, verset 4. Il a été mis en avant par ce qu'il a souffert. Il ne fait aucun doute que tous les écrivains ont accepté que Christ avait une préexistence avant l'incarnation en tant que l'un des fils de Dieu et qu'il était le Messie. Ainsi, les traditions issues du Hadith dans les stades hérétiques de l'islam après la mort du prophète Qasim et des quatre califes correctement guidés ont cherché à nier la préexistence du Christ et de séparer la divinité et l'humanité du Christ, et ainsi tombent dans la doctrine de l'Antéchrist. Les unitaires radicaux qui ont émergé de la réforme qui nie la préexistence du Christ sont aussi de la doctrine de l'Antéchrist. De la même manière, les sabellianistes, c'est-à-dire ceux qui embrassent la doctrine du sabellianisme, qui enseignaient que Dieu était Christ en tant qu'à la fois le Père et le Fils, prennent aussi la doctrine de l'Antéchrist à un autre niveau, qui cherche à nier le Père et le Fils comme des entités distinctes. Nous sommes ainsi au stade maintenant où la mariolatrie a repris les systèmes catholiques romains et orthodoxes, aussi bien comme un élément important des systèmes anglicans. Là où nous en sommes maintenant, au niveau du système de la déesse mère, dans le culte de Baal et d'Astarté, avec leur structure et les cultes du soleil, aussi d'Atis, d'Adonis, d'Osiris et leur épouse déesse mère Ishtar, Isser, Isis et Cybèle, aussi bien que le système Mithra et les mythes du taureau tué des Perses associés dans le système Mithra. L'islam est maintenant mort au Coran et ne comprend aucun de ses enseignements, les ayant pervertis, comme le judaïsme a perverti la Bible avec ses traditions et la Kabbale. L'islam nie les enseignements de la Bible et efficacement sépare la divinité de l'humanité du Christ, et même nie sa divinité en tant qu'un Elohim, ainsi que les enseignements de la Bible entièrement. L'islam est corrompu entièrement par le paganisme des Arabes pré-chrétiens et pré-islamiques. Le système mondial qui émergera à la fin de cette période sera effectivement un système qui est dérivé du mystère et des cultes du soleil, qui nie la préexistence du Christ et qui a refusé ou séparé sa divinité de son humanité. Beaucoup de musulmans qui n'acceptent pas notre Seigneur Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu, disent qu'il n'était qu'un messager. Ils sont effectivement aveugles aux textes de la Bible et ceux du Coran, lesquels sont issus de la Bible. Ils sont en fait anti-Christ, ramenant la foi chrétienne de partout totalement en opposition à la position de la Bible et du Coran. Cela est en train de se faire lentement dans tous les pays israélites et les nations qui leur sont associées. Ils inondent partout dans toute l'Europe, les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l'Afrique, jusqu'en Afrique du Sud. Au chapitre 17 de la Révélation, entre parenthèses appelée Apocalypse aussi, il est dit que les rois de la terre ont commis la fornication et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa fornication. Dans le chapitre 18 aussi, il est dit la même chose, et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. De plus, au verset 9, cela poursuit en disant qu'ils verront la fumée de son embrasement. À partir du verset 17, les navires se tenaient éloignés. À partir du chapitre 14, cela continue à traiter de la vigne de la terre et la façon dont les nations seront ivres d'elle. Et du feu qui les tourmentera, la fumée montera jamais et il n'y aura aucun repos ni jour ni nuit. Voir aussi l'étude des messages d'Apocalypse 14, étude numéro 270. On pourrait être excusé d'aligner la calamité des feux de l'Apocalypse avec les plateformes pétrolières qui peuvent provoquer le feu à brûler jour et nuit pendant des jours ou plus. Ainsi, cette faiblesse que les nations occidentales ont permise pour les affaiblir et qui est devenue leur talon d'Achille sera autorisée à être utilisée contre eux. Les pays occidentaux, maintenant, sont si dépendants du pétrole du Moyen-Orient qu'ils laissent librement les musulmans prêcher l'islam dans ces pays et ils les polluent comme le hadith a pollué le Moyen-Orient avant eux. La collision massive du système de l'Antéchrist impliquera l'islam, le système de la déesse mère et les satanistes et il n'y aura pas de fin, sauf sous le Messie. Nos politiciens occidentaux sont apparemment trop veuls pour y faire face et affronter le conflit à venir. En fait, ils feront partie du système de la bête à venir. La doctrine de l'Antéchrist est certaine d'être déterminante pour la place de tous ceux qui professent être chrétiens dans la première résurrection. Les unitaires radicaux, les binitaires et les trinitaires, les sabellianistes et l'islam hadithique et toutes les autres hérésies n'y seront pas. Fin de la lecture de l'étude La doctrine de l'Antéchrist, étude numéro 243b.